أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رمضان آیا اور تمام لوگوں پر
le ramadan est venu et a transmis ses bénédictions à tous ceux qui ont tenté de profiter de ses faveurs. Il ne reste que 2 jours de jeûne, ou peut-être 3 dans certaines régions. Mais en tout cas, le ramadan touche à sa fin. Un croyant sage et sincère se souvient toujours, et il doit toujours s'en rappeler, qu'avec la fin du ramadan, nous n'avons pas été affranchis de nos nombreuses responsabilités et de nos devoirs. Au contraire, le ramadan est venu nous former pour mieux remplir ses devoirs et ses responsabilités. Le ramadan est venu enseigner le respect de ses droits et la méthode pour le faire avec constance. Et le ramadan est venu nous indiquer les étapes du progrès dans ces domaines. Le ramadan tire à sa fin en nous enseignant tout cela. Certes, le mois du jeûne obligatoire tire à sa fin, mais débute maintenant le moment pour élever les normes de ses œuvres restantes et pour favoriser le progrès dans ces domaines. Si nous oublions le fait qu'après le ramadan, nous devons maintenir les normes de respect de nos devoirs, eh bien, en ce cas, nous n'avons pas passé notre ramadan comme l'avait conseillé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Selon un hadith, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que les 5 prières quotidiennes, les prières du vendredi consécutives et les actes accomplis entre un ramadan et le prochain servent d'expiation pour les péchés commis entre eux, à condition qu'on ait évité les péchés majeurs. Qu'il soit clair ici que si l'on n'analyse pas ses péchés et ses erreurs mineures et qu'on tente pas de les éviter et qu'on n'implore pas le pardon de Dieu après les avoir commis, eh bien ces péchés mineurs vont se transformer en péchés majeurs. Le sens de ce hadith est que l'on doit nourrir la crainte de Dieu à tout instant dans le cœur et implorer le pardon de Dieu afin de pouvoir éviter ses actions. Si nous ne traversons pas la période entre 2 ramadans successifs à accomplir de bonnes œuvres et à respecter nos obligations et nos devoirs, eu égard au culte de Dieu, et nos devoirs envers autrui. Si nous n'avons pas respecté ces obligations au cours des autres mois de l'année, eh bien, en ce cas, nous n'aurons pas profité pleinement du mois du Ramadan. Nous avons la chance que le Messie premier Islam nous a guidés clairement dans tous les domaines. Il nous a prodigué maints conseils sur le respect de nos devoirs envers nos actes d'adoration et envers autrui. Il nous a présenté un plan d'action pour mener nos vies. Si cette stratégie fait partie de nos vies, et si nous tentons d'y conformer notre existence, eh bien, nous allons marcher certainement sur ces voies qui vont favoriser l'épanouissement dans le domaine de la vertu et dans le domaine du progrès spirituel. Il s'agit de la voie liant un Ramadan au prochain Ramadan, de la voie pour éviter les écarts de conduite et les péchés, et de se faire pardonner. À notre époque, c'est le serviteur véritable du saint prophète Mohammed lui qui nous a exhortés à maintes reprises de mener nos vies en accord aux véritables enseignements de l'islam. Il a expliqué clairement que nous devrons suivre ses conseils si nous souhaitons mériter en permanence les faveurs d'Allah. Je vais citer certains de ses conseils. Au cours du Ramadan, l'on est davantage vigilant concernant le culte de Dieu. Nous tentons d'effectuer les salats obligatoires et les nawafil avec un soin particulier. Mais les salats ne sont pas obligatoires pour un mois spécifique ou à un moment particulier. Les cinq prières quotidiennes doivent être accomplies à l'heure prescrite au cours des 12 mois de l'année. Le saint prophète Mohammed lui l'a rappelé à maintes reprises aux croyants. L'envoyé d'Allah lui a déclaré: abandonner la salat rapproche l'homme de l'incroyance et du polythéisme. Il a aussi déclaré que la première chose dont l'homme devra rendre des comptes au jour de la résurrection est la salat. Et s'il passe cette épreuve, il réussira et il méritera le salut. Ainsi, telle est l'importance de la Swala. La Swala n'est pas consacrée à un mois particulier. Il faudra accomplir les Swala cinq fois par jour. Le Messie premier d'Islam nous a conseillé sur l'importance des Swala à maintes reprises. Et il a clairement expliqué ce qu'est la salat. Il nous a expliqué comment accomplir la salat et comment en tirer plaisir. Et il nous a fait aussi comprendre qu'il faudra faire des efforts pour en tirer plaisir. On doit accomplir des salats qui augmentent notre amour pour Allah. On ne doit pas étaler son tapis de prière ou se rendre à la mosquée pour prier en sanglotant un tant soit peu, uniquement lorsqu'on est confronté à un problème mondain, pour ensuite oublier la prière, la salat, lorsque le problème est résolu. Ou certains se concentrent sur la salat uniquement au cours du Ramadan pour oublier ensuite la salat, ou pour ne pas y consacrer l'attention nécessaire. Si tel est le cas, ni les salats, ni la prière de Juma, ni le jeûne n'offriront le pardon pour les péchés, comme indiqué dans le hadith que j'ai présenté. Le Messie premier l'Islam a expliqué ce qu'est la Salah en ces termes. Le Messie premier l'Islam déclare: c'est une supplication spéciale que les gens considèrent à tort comme l'impôt exigé par le souverain. L'ignore, croit-il, que Dieu a réellement besoin de ces supplications. Dieu est indépendant. Et a-t-il besoin que l'homme le supplie, le loue et le glorifie? Il s'y trouve en fait des avantages pour l'homme, car il atteint son objectif par ce moyen. Le Messie premier d'Islam déclare: « Je suis très peiné par le manque d'amour de mes contemporains envers les actes d'adoration, envers la taqwa et la piété. » Il s'agit d'une question d'amour. C'est en éprouvant de l'amour que l'on assumera ses devoirs comme il se doit. Il explique: l'influence nocive de la tradition en est la raison. Ceci a refroidi l'amour d'Allah. C'est-à-dire, on s'empêtre dans les traditions et l'on ne tire pas de ces actes d'adoration la saveur qui en découle. Allah a placé en toute chose en ce monde une saveur et un plaisir particuliers. Le malade n'apprécie pas la saveur d'un mets succulent. Celui-ci est pour lui amer ou insipide. On perd toute sensation gustative en raison de la maladie ou pour avoir pris trop de médicaments, et le malade ne tire aucun plaisir de ses mets ou il refuse d'en manger ou il y trouve des défauts. Le Messie premier l'Islam ajoute: ceux qui ne savourent pas leur acte d'adoration et qui n'en tirent aucun plaisir doivent se soucier de leur maladie, car Dieu a placé du plaisir en toute chose qu'il a créée, comme je l'ai expliqué. Dieu a créé l'homme pour son adoration. Comment est-ce possible donc que l'homme ne tire aucun plaisir de cette adoration? Certes, cette saveur existe, mais il faut aussi qu'il y ait des gens pour en profiter. Allah affirme: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Étant donné que la raison d'être de l'homme est l'adoration de Dieu, il est essentiel qu'il s'y trouve un haut degré de plaisir et de félicité. Certainement, il doit y avoir un haut degré de plaisir et de félicité. Ce concept est aisément compris grâce à nos expériences et notre vécu au quotidien. Voyez à titre d'exemple les féculents et les autres aliments créés pour l'homme. Leur consommation n'est-elle pas pour lui source de plaisir? Ne possède-t-il pas des papilles gustatives pour tirer plaisir de cette saveur et de ses sensations? L'homme ne savoure-t-il pas la vue de belles choses du monde, des plantes, des minéraux, des animaux ou des êtres humains? Ses oreilles ne sont-elles pas enchantées par une voix mélodieuse et gracieuse? Peut-on affirmer face à ces arguments que les actes d'adoration ne recèlent aucun plaisir? Il existe un plaisir en toute chose et l'homme s'en délecte. Pourquoi donc ne tire-t-il pas plaisir de ses actes d'adoration? Il explique: sachez que les actes d'adoration ne sont point un fardeau ou un impôt. Le plaisir qui s'y trouve est de loin supérieur à tous les délices de ce monde. Le malade ne savoure point un mets succulent, de même, l'infâme ne va tirer aucune saveur de l'adoration de Dieu. Il ressemble donc à ce malade. Il doit se faire traiter. Il est important de saisir ce point, notamment comment tirer du plaisir de ses actes d'adoration. Si l'on ignore la portée d'un acte, comment en tirer du plaisir? Celui dont tous les sens sont morts, comment va-t-il profiter d'une faveur et comment va-t-il en tirer du plaisir? Lorsqu'on s'empêtre dans le matérialisme et lorsqu'on ne se soucie pas de ces valeurs, on est malade. Le Messie premier l'Islam présente aussi la solution. Il déclare : Je constate que d'aucuns sont négligents et paresseux dans l'accomplissement de leur salat, parce qu'ils ignorent le plaisir et la saveur que Dieu y a placés. Cette paresse et cette négligence sont encore plus importantes dans les villes et dans les villages, dit le Messie premier l'Islam. 50% des gens ne se prosternent pas devant leur maître véritable avec toute l'attention requise et avec un amour sincère. La question est, pourquoi ignore-t-il ce plaisir? Pourquoi est-ce qu'ils ne se prosternent pas devant Dieu avec plaisir? En fait, ils n'y ont jamais goûté. La religion ne présente pas de tels préceptes. D'aucuns ne veulent même pas entendre l'appel du muezzin quand ils sont pris par leur travail. Ils se disent occupés et ils se plaignent que l'appel de la prière est pour eux un fardeau. On dirait que leur cœur est peiné d'entendre l'appel à la prière. Certains, par ostentation, disent aux autres « on va devoir partir pour la prière » ou « l'on va devoir fermer le magasin ». Le Messie premier l'Islam déclare « L'état de pareils gens est fort pitoyable. Certains tiennent leur magasin sous la mosquée, mais ils n'y mettent jamais les pieds. On doit, avec grande détresse et ardeur, accomplir la prière suivante. On doit implorer Dieu en disant « Ô Seigneur, fais que nous goûtions ne serait-ce qu'une fois à la saveur de la salat et des actes d'adoration, tout comme nous goûtons à la saveur des fruits et d'autres mets. » Il faudra implorer Dieu en ce sens, et c'est là que l'on va tirer plaisir de ces soins-là. On doit l'implorer, fait que nous goûtions ne serait-ce qu'une fois à la saveur de la soins-là. Et une fois qu'on y a goûté, l'on en aura connaissance et l'on sera vigilant à cet égard. Le Messie premier l'Islam déclare, l'on se souvient d'une belle chose contemplée avec délice. De même, l'on se souvient d'une scène laide et horrible. L'on n'oublie ni la laideur, ni la beauté, dit le Messie premier l'Islam. Mais sans lien, l'on ne retient rien. La salat est pour ceux qui la négligent une amende. Pourquoi, sans aucune raison, se disent-ils, devons-nous nous réveiller le matin, accomplir l'ablution dans le froid? Mettre de côté tout confort pour accomplir la salat. Cela en fait vivre dans l'ignorance. Ils ne peuvent saisir la portée de la salat et ne connaissent point le plaisir et la joie qui s'y trouvent. Ils se disent croyants et musulmans, mais en fait, ils sont indifférents et ils ne peuvent comprendre le plaisir qui se trouve dans la salat. Et ils tirent plus de plaisir dans leur sommeil. Le Messie premier l'Islam ajoute, étant donné qu'ils en sont ignorants, comment pourront-ils se délecter de leur salat? Un ivrogne va avaler verre après verre afin de connaître l'ivresse. Il ne cessera de consommer verre après verre afin de connaître l'ivresse. Le perspicace et le sage, s'il est un véritable croyant, doit tirer profit de cet exemple. Il doit tirer des leçons de cet exemple de l'ivrogne, à savoir qu'il doit persévérer dans ses actes d'adoration et il doit implorer Dieu et être régulier dans ses soins-là jusqu'à ce qu'il en tire plaisir. Le plaisir de l'ivresse est l'objectif principal de l'ivrogne. L'esprit et toutes les aptitudes du croyant doivent être consacrés à la prière et à l'acquisition de ce plaisir. Animé de sincérité et d'ardeur, on doit ressentir tout au moins une détresse et une peine ressemblant à celle de l'ivrogne pour que naisse la supplique adressée à Dieu lui demandant d'accorder ce plaisir. Il faudra implorer Dieu pour qu'il vous accorde ce plaisir. Le Messie premier l'Islam déclare, « Certainement, l'on en tirera du plaisir suite à des efforts incessants en ce sens. » En accomplissant la salat, le croyant doit aussi tenter d'acquérir les avantages qui y sont liés et avoir à l'esprit l'état d'Ihsan. Allah déclare, « Innal hasanat yudhibna sayyat » Innal hasanati yudhibna sayyat. Les vertus chassent les mauvaises actions. L'on doit supplier Dieu en ayant au cœur ses hasanat, ses vertus et ses plaisirs, afin de pouvoir accomplir la prière des siddiqin et des mursalin. Il est dit « Innal hasanati yudhibna sayyat », c'est-à-dire « les vertus chassent les mauvaises actions » ou « la salat chasse les mauvaises actions ». Un autre verset du Saint-Coran affirme que la salat protège de l'indécence et du mal. Mais d'aucuns commettent des péchés en dépit d'accomplir la salat. Certes, ils prient, mais pas avec l'esprit ou avec la droiture nécessaire. Si la salat n'a aucun effet sur eux, cela signifie qu'ils prient, certes, mais pas avec l'esprit nécessaire. Ces gens n'y consacrent pas toute leur attention. Ils se cognent le front au sol par habitude. Leur âme est morte et Allah ne considère pas pareil cela comme un des hasanat. Pareil cela ne font pas partie des hasanat. En dépit de leur sens proche, Dieu a mentionné les hasanat ici et pas as-salat, afin d'indiquer que la vertu et la beauté de cette salat véridique chasse le mal et elle est accompagnée de faveurs divines. La salat ne signifie pas uniquement se tenir debout et s'asseoir. L'essence de la salat est un acte de l'adoration qui accorde un plaisir immense. Ainsi donc, la supplication est essentielle pour acquérir ce plaisir et pour sortir de cette maladie. On ne doit pas implorer Dieu uniquement pour assouvir ses désirs matériels, mais il faudra aussi prier en ce sens. On use de tout traitement pour se guérir d'une maladie. Il en est de même dans ce cas. Ensuite, le Messie premier Islam prodigue ce conseil. Il déclare: accomplissez la salat comme le saint prophète Mohammed lui avait l'habitude de le faire. Il n'y a aucun mal à implorer Dieu dans sa langue maternelle après avoir usé des prières consacrées. La salat ne sera point annulée pour cette raison. Aujourd'hui, les gens ont perverti la salat. Ils ne l'accomplissent point, ils se contentent de se cogner la tête au sol, comme des poules qui picorent, pour ensuite se consacrer à de longues prières après la salat. Cette pratique est très courante en Inde et au Pakistan. Les gens accomplissent la salat à la va-vite pour ensuite faire de longues prières en levant les mains. Les supplications sont le cœur de la salat. Comment atteindre l'objectif de la prière rituelle en suppliant Dieu hors de la salat? Il serait tout à fait futile de présenter ses doléances en l'absence du roi quand on a eu l'occasion de le faire dans sa cour et en sa présence. Ainsi donc, tel est le cas de ceux qui n'implorent pas Dieu en toute humilité lors de la salat. Si vous devez l'implorer, eh bien faites-le lors de la salat et respectez toutes les étiquettes de cet office cultuel. Comment le saint prophète Mohammed nous a-t-il appris à accomplir la salat? Selon un récit, quelqu'un s'est rendu à la mosquée et il a accompli sa salat. Et il a ensuite salué le saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète lui a dit: pars et prie de nouveau. L'envoyé d'Allah le regardait. Il était assis dans une réunion à la mosquée et il lui a demandé de répéter sa salat à 3 reprises. En fin de compte, l'individu a demandé au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux offrir une meilleure salat que celle-là. Informez-moi de la bonne façon de prier. Sur ce, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré: lorsque tu te mets debout pour la salat, énonce le takbir. Ensuite, récite une partie du Coran en accord à tes capacités, c'est-à-dire on doit réciter la sourate al-Fatiha et une partie du Coran. Ensuite, incline-toi calmement, c'est-à-dire de ne pas s'incliner rapidement et se remettre debout immédiatement. Il faudra faire le ruku calmement, ensuite se remettre debout. Ensuite, prosterne-toi calmement et relève-toi de la prosternation et assieds-toi calmement. Certains se relèvent d'une prosternation pour immédiatement se prosterner de nouveau. L'envoyé d'Allah a déclaré « Assieds-toi calmement », ensuite fait la deuxième prosternation. De cette manière, accomplit toute la salat lentement et avec bienséance. Certains demandent comment embellir leur salat. Ceci est la méthode prescrite par le saint prophète, puis ce soit lui. Il faudra accomplir sa salat calmement en accomplissant chaque posture dans le temps imparti. Après avoir compris l'essence de la salat et après l'avoir accomplie comme il se doit, il incombe aussi aux croyants de lire et de comprendre le Saint-Coran. Il doit être vigilant quant à sa lecture, tout comme c'est le cas souvent au cours du Ramadan. Il faudra aussi lire les commentaires du Saint-Coran. Ceci est un moyen pour lier un Ramadan au prochain Ramadan. Il faudra être vigilant quant à la lecture du Saint-Coran. Le Messie Premier Islam déclare à propos du Coran, « Si nous ne disposions pas du Coran et que notre foi et notre doctrine dépendaient des recueils de hadiths, c'est un visage des plus honteux que nous aurions présenté aux autres peuples. » J'ai médité sur le sens du nom Coran et j'ai compris qu'il renferme une grande prophétie. Notamment que le Coran est le livre qui mérite d'être lu, en particulier à une époque où d'autres livres seront disponibles. Ce sera le seul livre qui méritera d'être lu afin de préserver l'honneur de l'islam et afin de repousser le mensonge. Les autres livres mériteront qu'on les abandonne. Voilà le sens de l'épithète Furqan. Il est le livre qui va distinguer la vérité du mensonge. Aucun autre livre de hadith, aucun autre livre n'aura autant d'importance. Abandonnez tous les autres livres, matin et soir, lisez uniquement la parole de Dieu. Il est 100 fois celui qui n'éprouve pas de l'amour à l'égard du Coran et qui s'adonne à la lecture d'autres livres. Les membres de notre Jama'at doivent se consacrer corps et âme à l'étude du Coran et cesser de se préoccuper des hadiths. Il est fort malheureux de constater que l'on n'étudie pas le Coran avec le même soin et avec la même réflexion qu'on étudie les livres de hadiths. Prenez entre les mains l'arme du Coran et vous aurez la victoire. Les ténèbres sont vouées à disparaître face à cette lumière. Le Messie Premier l'Islam a prodigué d'autres conseils pour préserver les actes vertueux. Il déclare accorder prééminence à la foi sur le monde. Il explique à ce sujet, il existe deux catégories d'individus. Il y a ceux qui, ayant accepté l'islam, se vouent corps et âme au commerce et aux affaires de ce monde. Les rênes de leur vie se trouvent entre les mains de Satan. Je ne vous interdis point le commerce. Les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, faisaient du commerce, mais ils préféraient aussi la foi à ce monde. Ayant embrassé l'islam, ils ont acquis un véritable savoir de l'islam, savoir qui a empli leur cœur de certitude. C'est ainsi qu'ils n'ont point chancelé face à Satan dans quelque domaine que ce soit. Rien ne les a empêchés de révéler la vérité. Ceux qui se font les serviteurs et les esclaves du monde au point d'être les adorateurs de ce monde, eh bien ceux-là se trouvent sous l'emprise de Satan. La deuxième catégorie de personnes concerne ceux qui se soucient uniquement du progrès de la foi. Ils sont qualifiés de Hezbollah et ils remportent la victoire sur Satan et sur son armée. Comme l'argent s'accroît avec le commerce, de même, Dieu a qualifié la quête de la foi et le progrès dans ce domaine de commerce. C'est-à-dire, la quête de la foi est un commerce. Allah déclare dans le Saint-Coran, « Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim » Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Le meilleur commerce est celui de la foi. Il nous sauve du châtiment douloureux. C'est pour cette raison que je vous exhorte en ces termes. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin adim. Le Messie Premier l'Islam ajoute, j'ai peur que celui qui laisse faiblir cette passion pour la foi ne tombe sous l'emprise de Satan. C'est pour cette raison qu'il est important de bannir toute paresse. L'on doit s'enquérir à propos des faits que l'on ignore afin d'accroître sa connaissance. Il n'est pas interdit de poser des questions. Si l'on n'a pas compris un point, l'on doit poser des questions à ce propos. L'on doit poser des questions pour le progrès pratique. Il ajoute, pour accorder prééminence à la spiritualité, il faudra d'une part renforcer sa foi, et d'autre part, il faudra aussi accroître son savoir et sa pratique, et il faudra faire des efforts en ce sens. Le Messie premier l'Islam nous a présenté une autre méthode pour perpétuer les bénédictions du Ramadan. Il s'agit du respect de nos relations mutuelles. Au cours du Ramadan, nous avons tenté de faire montre de hautes qualités morales. Il est essentiel de les perpétuer. Il est essentiel de le faire afin de promouvoir l'amour mutuel, afin de promouvoir la fraternité et afin de respecter les droits des uns et des autres. Le Messie premier l'Islam déclare, « Notre Jamaat ne va pas s'épanouir tant que ses membres n'éprouvent pas une compassion sincère à l'égard de l'autre. Les forts doivent aimer les faibles. » J'entends que d'aucuns méprisent autrui en raison de ses écarts de conduite et ils les honnissent tandis qu'ils auraient dû prier pour eux, tandis qu'ils auraient dû les aimer et les conseiller avec affection. Malheureusement, ils ressentent une grande rancune à l'égard de ces gens-là. Sans indulgence, leur cas va s'aggraver et ils connaîtront une mauvaise fin. Allah désapprouve pareil agissement. Une communauté ne s'établit que lorsque ses membres s'entraident et couvrent mutuellement leurs défauts. Lorsque ces conditions sont réunies, on assiste alors à l'émergence d'un seul corps et les uns deviennent les membres des autres. Et la fraternité qui s'établit entre eux dépasse de loin celle qui existe entre des frères de sang. Tel doit être le niveau de sympathie. Lorsque le fils est coupable de mauvaises actions, eh bien le père va couvrir ses défauts et il va conseiller son fils en aparté. Le frère couvre les manquements de son frère. En aucun cas, il va dévoiler les manquements de son frère au grand jour. Jamais il ne va dévoiler que son frère a commis telle ou telle injustice ou tel péché. Lorsque Dieu établit cette fraternité, est-ce cela une manière de respecter les droits de ses frères? Les frères de sang n'abandonnent pas leur fraternité. Pourquoi donc le faites-vous? Parfois, l'homme apprend des animaux tels que les singes et les chiens. La division interne n'est pas souhaitable. C'est vers cette fraternité que Dieu avait attiré l'attention des compagnons du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Même s'ils avaient dépensé des montagnes d'or, ils n'auraient jamais pu obtenir la fraternité qu'ils ont obtenue par l'intermédiaire du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui. Dieu a fondé ce mouvement sur ce même principe. Il va établir cette même fraternité au sein de cette communauté. Je nourris de grands espoirs en Dieu. Il m'a promis ceci. Jusqu'au jour du jugement, j'accorderai la supériorité à ceux qui ont cru en toi sur ceux qui t'ont rejeté. J'ai la certitude qu'il va établir cette communauté qui, jusqu'au jour du jugement, aura la supériorité sur mes négateurs. Mais ce sont des jours de faiblesse et ce sont des jours qui offrent l'occasion à chacun de se réformer et de rectifier ses actions. C'est un très grand péché que de critiquer, que de blesser les sentiments des uns et des autres et de peiner autrui en faisant usage d'un langage grossier et de mépriser les faibles et les modestes. Le Messie premier l'Islam déclare, nous n'avons point besoin au sein de notre Jamaat de puissants lutteurs. Nous avons besoin de personnes fortes et à même de transformer leurs mœurs. Le puissant n'est pas celui qui déplace une montagne. Le véritable brave est celui qui est capable de changer ses habitudes. Usez de toute votre détermination et de toute votre capacité afin de transformer vos penchants. Il s'agit là de la force et de la bravoure véritable. Le Messie premier Islam conseille ceci à propos de l'amour, à propos de l'affection et à propos du respect mutuel et de l'importance de l'humilité et de la douceur. Il déclare, il est très important pour les Ahlis Taqwa, pour les gens de la Taqwa, que de passer leur vie dans la simplicité et dans l'humilité. Ceci est une branche de la Taqwa par laquelle nous pouvons nous débarrasser de la colère injustifiée. Le dernier stade qui s'avère être le plus crucial pour les gens pieux et honnêtes est d'éviter la colère. L'arrogance et la vanité proviennent de la colère, et inversement, la colère est quelquefois une conséquence de l'arrogance et de la vanité. La colère est engendrée lorsque l'homme donne préséance à son nafs, à son moi, sur celui de l'autre. Je ne désire pas que les membres de ma jamaat se considèrent les uns et les autres inférieurs ou supérieurs, ou qu'ils soient hautains ou méprisants envers autrui. Dieu sait qui est grand ou petit. Pareille pensée sent le dédain, et j'ai peur que ce mépris, à l'instar d'une graine, ne pousse et n'engendre la destruction de son auteur. Certains traitent avec une grande courtoisie les grands de ce monde, mais grand est celui qui écoute en toute humilité les paroles de l'humble et qui accorde l'importance à ses propos et qui ne blesse pas ses sentiments. Les grands et les titulaires de poste au sein de la communauté doivent être vigilants à cet égard. Ils doivent s'adresser à autrui en faisant montre d'une grande douceur et d'une grande affection dans leurs propos. Allah affirme à ce sujet, wala tanabazu bil alqab. Bi'sa al-ismu al-fusuq ba'd al-iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ne vous diffamez pas les uns les autres et ne vous donnez pas entre vous des sobriquets par sarcasme. Cet acte est si uniquement aux pécheurs et aux vicieux. Celui qui méprise l'autre ne mourra pas avant d'avoir été frappé lui-même du mal dont il accuse. Ne méprisez pas vos frères. Étant donné que vous vous désaltérez tous à la même source, comment savoir qui en boira davantage? Le plus honorable n'est pas défini selon les principes de ce monde. Le plus grand aux yeux d'Allah est celui qui est le plus muttaqi. Ceci est énoncé dans le verset suivant. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Le Ramadan a engendré la taqwa. Et la taqwa exige qu'on améliore nos relations mutuelles et que nous fassions preuve de bienséance et de courtoisie dans nos interactions avec autrui. Ensuite, le Messie premier Islam déclare. Je l'ai dit à maintes reprises, soyez unis et solidaires. Dieu a enseigné aux musulmans, soyez comme un seul corps, sinon vous allez perdre votre puissance. L'injonction de se tenir côte à côte lors de la salat est pour le bien de l'unité, afin qu'à l'instar de l'électricité, le bien de l'un imprègne l'autre. Afin qu'à l'instar de l'électricité, le bien de l'un imprègne l'autre. S'il y a désaccord, s'il n'y a pas d'unité, eh bien, vous n'aurez aucune chance. Vu la situation actuelle, les fidèles se tiennent à distance par nécessité lors de la soirée. Les enfants et les autres ne doivent pas croire qu'il s'agit là d'une pratique permanente. La situation s'améliore petit à petit et les distances sont également de plus en plus courtes. Inch'Allah, les conditions vont retourner à la normale. Lorsqu'on forme les rangées lors de la prière à la mosquée, il faut se toucher de l'épaule. C'est un point qu'on ne doit pas oublier. Certes, on a pris des mesures temporaires en raison des exigences sanitaires, afin que l'on puisse tout au moins continuer de prier en congrégation à la mosquée. C'est pour cette raison qu'on a maintenu les distances entre les fidèles et on espère que la situation va retourner à la normale rapidement. En tout cas, le Messie premier l'Islam déclare, le saint prophète Pessoa lui a déclaré, « Vous devez vous aimer les uns les autres et prier les uns pour les autres à l'insu de l'autre. » C'est un point très important, que l'on prie pour l'autre à son insu. Que l'on vous demande ou non de prier pour l'autre, ou même si vous ne le connaissez pas personnellement, prier pour la Jamaat en général ou pour les membres de la Jamaat est un acte très noble. Le Messie premier salam déclare, si un individu prie pour quelque d'autre à son insu, un ange affirme qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Quel rang remarquable en effet, si les prières de l'homme ne sont pas entendues, au moins celles des anges sont acceptées. Je vous conseille de bannir toute discorde entre vous, dit le Messie premier salam. Il ajoute, je n'ai apporté que deux enseignements. Premièrement, établir l'unicité de Dieu. Et deuxièmement, faire montre d'amour et de sympathie mutuelle. Montrer un exemple qui sert de miracle pour les autres. Ceci est l'argument présenté par les compagnons. Il est dit, Kuntum a'da an fa'allafa bayna qulubikum. Vous étiez des ennemis et Dieu a uni vos cœurs dans l'amour. Le Messie premier d'Islam ajoute, l'unité est un miracle. Tant que chacun d'entre vous n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, eh bien, vous n'êtes pas un membre de ma communauté. Celui-là connaîtra le malheur et l'épreuve, et il connaîtra une mauvaise fin. Le Messie premier d'Islam attire notre attention sur l'importance de s'imprégner de l'amour de Dieu. Il déclare, que signifie aimer Dieu ? Aimer Dieu signifie accorder priorité à l'agrément d'Allah sur ses proches, sur ses parents, sur sa femme, sur ses enfants et sur soi-même. En bref, accorder priorité au plaisir d'Allah surtout. Il est dit dans le Saint-Coran « Fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum » ou « ashadda dhikra » C'est-à-dire célébrer les louanges d'Allah comme vous avez célébré les louanges de vos pères, ou même plus que cela, et avec un plus grand degré d'amour. Le Messie premier d'Islam ajoute, « Afin d'établir la véritable unicité de Dieu, il est nécessaire d'engendrer en soi l'amour de Dieu. Et cet amour ne naît qu'en l'exprimant pleinement par des actions. Il faut démontrer cet amour de manière pratique et l'exprimer également. Cet amour n'est pas engendré par des simples déclarations verbales. Prononcer le mot misri, qui est un type de sucre, ne fera pas naître la saveur sucrée dans la bouche. On ne ressentira pas la saveur sucrée dans la bouche rien qu'en prononçant le mot sucre. Ou si l'on se dit être l'ami de l'autre, mais qu'on ne l'aide pas dans un moment difficile, on ne pourra pas être considéré comme un ami véritable. De même, si l'on se contente d'énoncer verbalement l'unicité de Dieu et son amour pour lui, cela ne sera d'aucun avantage. En fait, la démonstration pratique est plus nécessaire que la déclaration verbale. Cela ne signifie pas que les déclarations verbales sont inutiles, non. Je soutiens qu'une affirmation pratique est requise parallèlement aux témoignages verbaux. Par conséquent, vous devez vouer votre vie dans la voie de Dieu. Ceci est l'islam. C'est la tâche pour laquelle j'ai été suscité. Vivront dans la privation ceux qui se tiennent éloignés de cette source que Dieu a fait couler pour cette cause. Si le véritable chercheur souhaite acquérir quelque chose et atteindre son but, il doit se précipiter vers cette source, s'avancer et placer sa bouche au bord de cette source jaillissante. Mais cela est impossible sans tomber devant le seuil de Dieu en ayant abandonné toute aliénation. À moins qu'on ne promet que même si l'on perd tout honneur matériel et qu'on est confronté à des difficultés accablantes de la taille d'une montagne, on n'abandonnera jamais la personne de Dieu et on sera prêt à consentir à tout sacrifice pour Allah. La merveilleuse sincérité du prophète Ibrahim a.s. était telle qu'il était même prêt à sacrifier son fils. Le but de l'islam est de créer de nombreux Ibrahim. Le Saint-Coran a mis en évidence la loyauté du prophète Ibrahim a.s. Le Messie premier a.s. déclare « Efforcez-vous tous de devenir un Ibrahim. Je vous le dis en vérité. N'adorez pas les saints, mais devenez vous-même des saints. N'adorez pas des guides spirituels, mais devenez vous-même des guides spirituels. Parcourez ces voies. » Devenir un guide spirituel ne signifie pas devenir arrogant et vaniteux. Cela signifie plutôt adopter l'humilité, la modestie et la loyauté. Ceci est le sens de cette déclaration. Cela ne signifie pas adopter la mondanité comme les soi-disant guides spirituels d'aujourd'hui. Le Messie premier d'Islam déclare « Empruntez ces voies sans aucun doute, elles sont étroites, mais après les avoir traversés, on ressentira la paix et la sérénité. Cependant, il incombe de franchir ces portes en s'allégeant. Si l'on porte un énorme paquet sur la tête, il sera difficile de passer à travers cette porte. Si vous souhaitez traverser cette porte, jetez ce paquet de relations mondaines et évitez de placer le monde avant votre foi. Notre communauté désire plaire à Dieu. Elle doit jeter ce paquet. Sachez très bien que si vous n'êtes pas loyaux et sincères, vous serez déclarés menteurs et vous ne serez pas considérés véridiques aux yeux de Dieu. En pareil cas, celui qui adopte la voie de la traîtrise au lieu de la loyauté sera détruit avant même ses ennemis. On ne peut pas tromper Dieu, personne ne peut le tromper. Il est nécessaire de développer cette véritable sincérité et cette véritable honnêteté. Le Messie premier l'Islam explique que l'on peut atteindre la vraie sincérité par la patience et par la prière. On doit s'efforcer de l'acquérir et pour cela, on doit se prosterner devant le seuil d'Allah avec constance. Ainsi, avec chaque nouveau jour, nous devons renforcer notre lien de loyauté avec Dieu. Voici le plan d'action que nous devons suivre. Nous devons nourrir une concentration constante concernant le salat et nous devons faire preuve de résolution à cet égard et nous devons accomplir le salat de manière excellente et nous devons respecter les exigences de nos salats. Nous devons lire et comprendre le Saint-Coran, obéir tous ses commandements. Nous devons respecter les droits de tout un chacun et établir l'unicité de Dieu. En réalité, chaque action d'un véritable croyant est pour établir l'unicité de Dieu. Telle doit être la tâche de tout véritable croyant. Telle était la raison même de l'avènement du Messie promis l'Islam. Et il l'a répété à maintes reprises. Nous devons saisir ce point, sinon prêter allégeance verbalement ne sert à rien. Le Messie promis l'Islam l'a d'ailleurs clairement expliqué à maintes reprises. Par exemple, il affirme: celui qui affirme avoir accompli la Bayra et qui dit posséder la foi doit s'examiner et se demander s'il est l'écorce ou le noyau. Tant que le noyau n'existe pas, il ne pourra pas affirmer qu'il possède la foi et l'amour, qu'il est obéissant, qu'il a prêté allégeance et qu'il est un croyant et qu'il est mon disciple véritable ou qu'il est un musulman. Dire que l'on ressent de l'amour pour Dieu, que l'on possède la foi, qu'on a prêté allégeance au Messie promis l'Islam, tout cela ne seront que de vaines paroles. Ces affirmations ne seront pas vraies. Il déclare: sachez qu'aux yeux d'Allah, l'écorce sans le noyau n'a aucune valeur. Sachez aussi que la mort peut frapper à n'importe quel moment. La mort en soi est une certitude. Ne vous contentez pas de vaines déclarations, n'en tirez aucune gloire, car elles ne servent à rien, tant que l'homme n'accepte pas de subir plusieurs morts. Tant qu'il n'apporte pas en sa personne maint changement, et tant qu'il ne traverse pas par maintes révolutions, il n'atteindra pas le but de l'humanité. Il déclare: étudiez la condition du monde. Notre bien-aimé prophète, paix soit sur lui, a prouvé par ses œuvres que sa mort et sa vie étaient toutes deux consacrées à Dieu. Demandez à un musulman quelle est sa foi et il va répondre: Alhamdulillah, je suis musulman. Celui qui récite la kalima doit mener une vie en accord aux principes divins. Or, il vit et il meurt que pour ce monde jusqu'au moment où il est pris par les affres de l'agonie. Il se souvient de Dieu qu'au seuil de la mort. Le monde est son unique objectif, l'unique objet de son désir et sa cible. Comment donc ose-t-il annoncer qu'il suit le saint prophète Mohammed paix soit sur lui? Ceci mérite une attention. Il ne faut pas le prendre à la légère. Il n'est point aisé d'être musulman. Ne vous reposez pas jusqu'à ce que vous obéissiez le messager d'Allah, paix soit sur lui, et jusqu'à ce que vous suscitiez l'image véritable de l'islam en vous. Se dire musulman sans vraiment suivre le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'est qu'une écorce et rien de plus. Si l'on se dit musulman sans suivre le saint prophète, paix soit sur lui, ceci est comme une coquille creuse. Il ne sied pas au sage de se réjouir d'un titre et de l'écorce. Le Messie premier l'Islam présente un exemple ici. Un musulman a demandé un jour à un juif d'embrasser l'islam. Le juif a répondu: « Ne te contente pas de te dire musulman. J'ai nommé mon fils Khalid, qui signifie éternel, mais je l'ai enterré avant l'après-midi. Il n'était pas immortel et il n'a pas vécu longtemps. Cherchez donc ce qui est essentiel, dit le Messie premier des salam. Ne vous contentez pas de simples noms. Il est honteux de se dire disciple d'un si grand prophète que le saint prophète paix soit sur lui et de mener une vie de mécréant. Démontrez l'exemple du saint prophète paix soit sur lui dans vos vies et cultivez en vous un état similaire. Sachez que si vous n'avez pas suscité une telle condition, vous êtes un disciple de Satan. Ceci est un grave avertissement. Pareille personne sera le disciple de Satan. En bref, sachez que devenir le bien-aimé d'Allah doit être l'objectif principal de la vie de l'homme. Tant qu'on n'est pas le bien-aimé d'Allah et tant qu'on ne reçoit pas son amour, on n'aura pas de succès. Ceci est impossible sans obéir et sans suivre sincèrement le messager d'Allah, paix soit sur lui. L'envoyé d'Allah a démontré par son propre exemple ce qu'est l'islam. Inculquez cet islam-là en vous afin d'être les bien-aimés de Dieu. Le Messie premier islam déclare, « Sachez que les membres de ma jama'at ne doivent pas mener la vie d'un homme de ce monde. N'entrez point dans cette communauté par une simple affirmation verbale en accordant aucune importance aux actions à l'instar des malheureux musulmans d'aujourd'hui. Quand on leur demande « Êtes-vous musulman ?», ils répondent « Oui, alhamdoulilah ». Mais ils n'accomplissent pas la salat, ils ne respectent pas les signes d'Allah. Je ne souhaite pas que mes disciples se contentent de simples déclarations sans accomplir d'actions. C'est là un état déplorable qui déplaît à Dieu. La condition du monde a exigé mon avènement de la part de Dieu pour sa réforme. Si un de mes disciples ne se réforme pas tout en prétendant avoir un lien avec moi, s'il ne tente pas d'améliorer ses actes et s'il croit que sa déclaration verbale suffit, eh bien par ses actes, il tente de prouver que ma venue est inutile. Par ses actions, il prouve que l'avènement du Messie premier l'Islam était inutile. Si par vos actes, vous souhaitez démontrer que ma venue est futile, à quoi bon établir un lien avec moi? Si vous souhaitez vous lier à moi, eh bien, accomplissez le but de mon avènement. Pour ce faire, manifestez votre sincérité et votre fidélité auprès de Dieu. Appliquez les préceptes du Saint-Coran tels qu'ils l'ont été par le Saint-Prophète, paix soit sur lui et ses compagnons. Tentez de comprendre l'essence du Saint-Coran et essayez d'y conformer vos actes. Aux yeux de Dieu, il ne suffit pas que vous énoncez des propos qui ne se traduisent pas en actes. Ayez toujours à l'esprit que la communauté que Dieu souhaite établir ne peut survivre sans actes. Il s'agit d'une communauté grandiose dont la préparation avait débuté à l'époque d'Adam. Tout prophète ayant apparu sur terre en a fait mention. Ayez de la considération pour cette communauté et vous pourrez le faire qu'en montrant par vos actes que vous êtes bien dans le groupe des gens véridiques. Ainsi, si nous avons prêté allégeance au Messie promis l'Islam avec la conviction qu'il est bien le Messie promis et le Mahdi, dont l'avènement avait été prophétisé par le saint prophète, paix soit sur lui, nous devons en ce cas provoquer un pieux changement en nous. Nous allons devoir provoquer une révolution en nous et devenir un exemple à suivre pour le monde. Nous allons devoir fixer des normes élevées pour le respect des droits d'Allah et les droits de sa création. Le mois du Ramadan nous a offert une formation et nous devons continuer cette pratique tout au long de l'année. Nous devons faire de notre mieux pour mettre en œuvre le plan d'action que j'ai présenté à la lumière des paroles du Messie premier al-Islam. Nous devons accomplir nos salats de manière excellente, nous devons adhérer aux préceptes du Saint-Coran, nous devons respecter les droits des uns et des autres, et nous devons être prêts à consentir à tout sacrifice pour l'établissement de l'unicité de Dieu. C'est là que nous pourrons rendre justice à notre Bayra. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Continuez à prier pour que les conditions du monde s'améliorent. Différents pays nourrissent de l'inimitié les uns pour les autres et s'attaquent les uns les autres. Qu'ils puissent agir avec sagesse et qu'ils évitent pareille action, car le monde se dirige rapidement vers la destruction. C'est en reconnaissant leur Créateur qu'ils pourront sortir de cette situation. Priez également pour ces Ahmadis qui ont été emprisonnés en raison de leur foi. Priez pour les Ahmadis du Pakistan et pour que leurs conditions s'améliorent. Priez également pour les Ahmadis d'ailleurs, que leurs conditions s'améliorent. Priez aussi pour les Ahmadis emprisonnés en raison de leur foi en Afghanistan et en Algérie. « En raison des lois pakistanaises et de la peur des mollahs et de la peur du public, les juges pakistanais ne rendent pas des verdicts qui sont justes. Qu'Allah améliore les conditions de ce pays et que les Ahmadis puissent vivre librement là-bas au Pakistan. Après la prière du vendredi, je vais diriger la prière funéraire du respecté Abdulbaki Arshad Saab, qui était le président d'Al-Shirkatul Islamiya du Royaume-Uni. Il était le fils du docteur Abdulhamid Saab de Faisalabad. Il est décédé le 27 avril dernier à l'âge de 88 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était l'arrière-petit-fils de Hazrat Mian Chirardin Saab, un compagnon du Messie premier des Salam. Il était également de la famille de Hazrat Muhammad Hussein Saab, connu pour son travail sur le Marham Issa, sur la pommade de Jésus. Et il était également de la famille de Mir Muhammad Yusuf Saab, qui a servi comme secrétaire privé à l'époque du deuxième calife. Arshad Baki Saab est venu ici au Royaume-Uni en 1955 et il a étudié ici l'ingénierie électrique et il a vécu à la mosquée Fazal avec son épouse. Il a ensuite trouvé du travail en Arabie Saoudite et il s'y est installé en 1963 et il y est resté jusqu'en 1972. Pendant son séjour en Arabie Saoudite, il a pu servir les Ahmadis qui voyageaient pour accomplir le Hajj et l'Umrah. Parmi eux se trouvaient des compagnons du Messie premier d'Islam. En Arabie Saoudite, il a été emprisonné dans la voie d'Allah parce qu'il était un Ahmadi. L'État saoudien lui a proposé de le libérer s'il renonçait à l'Ahmadiyya. Il a choisi de subir l'emprisonnement et il a refusé d'abandonner l'Ahmadiyya. Il a été expulsé du pays en 1972 et il est retourné ici au Royaume-Uni. Après son retour ici et jusqu'à son dernier souffle, il a servi la Jamaat en différentes capacités. Quand le quatrième calife a quitté le Pakistan pour se rendre au Royaume-Uni, le défunt est parti le recevoir aux Pays-Bas et il a accompagné le calife de là-bas au Royaume-Uni. Le défunt a servi au Royaume-Uni en tant que secrétaire Jaidad. Il a joué un rôle important dans l'acquisition du terrain d'Islamabad. Il a également servi en tant que Naïb Amir du Royaume-Uni. Il a aussi occupé le poste d'officier de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, le président de l'Africa Trade, et il a servi longtemps en tant que président de la Ashirkatul Islamiyya. Il laisse derrière lui deux fils et deux filles. Un de ses fils, Nabil Arshad Saab, est en train de rendre de très bons services à la Jamaat. Un ancien employé du bureau, Mubashir Zafar Saab, déclare à son sujet, « Même si le défunt était bénévole, en effet, il n'a jamais accepté aucune allocation de la Jamaat, et bien même s'il était bénévole, il a travaillé avec une grande responsabilité et il était très ponctuel. » Malgré sa santé fragile, il travaillait au bureau pendant 8 à 10 heures par jour sans se soucier de sa maladie. Deuxièmement, il tenait à travailler de ses propres mains. Il faisait toujours sa propre tasse de thé, et si quelqu'un lui faisait du thé, il ne permettait à personne de laver la tasse et il la lavait lui-même. Parfois, après le déjeuner à Deer Park, certaines personnes laissaient leur vaisselle sur la table et il les ramassait et il nettoyait la table au lieu de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Parfois, si les toilettes avaient besoin d'être nettoyées et que les nettoyeurs n'étaient pas venus, il nettoyait également les toilettes lui-même. Il était un leader qui travaillait avec beaucoup d'humilité et d'effort. Le défunt avait également une très bonne mémoire et il s'occupait des dossiers de la Jamaat et de toutes les autres tâches qui lui étaient confiées avec beaucoup de soin. Il était très régulier dans ces soins-là et il les accomplissait en congrégation. Il avait un très grand respect pour le califat. Et si jamais le calife avait émis une directive qui était contraire à son opinion personnelle, eh bien il l'acceptait immédiatement de tout cœur et il oubliait sa propre opinion. Wadud Malik Saab écrit à son sujet. J'étais très jeune par rapport à lui, mais malgré cela, chaque fois que je lui rendais visite, il me donnait très gentiment des conseils et il me traitait avec une très grande humilité. Il ne me traitait pas comme quelqu'un qui était plus jeune que lui, mais comme quelqu'un qui avait le même âge que lui. Muniruddin Shams Saab écrit à propos du défunt que, au tout début, feu le quatrième calife lui avait confié la tâche de s'assurer des besoins des ménages à Islamabad. et le défunt a rempli ce devoir d'une excellente manière. De même, jusqu'à la fin, il a exercé ses fonctions à la Ashirkatul Islamia de manière exemplaire. Il était en contact constant avec la MTA et il a joué un rôle dans divers dossiers financiers et contractuels de la MTA. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah élève son rang. Qu'Allah permette à ses enfants de servir la foi et de demeurer sincères et fidèles envers la Jamaat et au califat. Sa dépouille est présente, et comme je l'ai dit, après la prière de Juma, je vais sortir pour diriger sa prière funéraire.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً عبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر